Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble sur Radio Guémoset pour l'émission La Parole est à vous. Alors, aujourd'hui, avec un magazine santé qui est donc avec Adémat comme partenaire. Et puis, bien sûr, le docteur Jean Tisserand.
Bonjour à tous. Bonjour Michel.
Voilà.
Toujours un plaisir de se retrouver.
Et on va parler aujourd'hui de...
Des cancers, d'épidémiologie, du dépistage. Et puis, peut-être un message d'optimisme, parce qu'on fait des progrès sur les traitements. Il y a des choses intéressantes qui arrivent.
Hein. Voilà. Je crois que c'est l'écriture quand même d'arriver à... arriver à un certain âge.
Voilà.
De faire connaissance avec le cancer.
Voilà, oui.
Est-ce qu'on peut éviter le cancer par la prévention?
Oui, 40% des cancers seraient évitables par des mesures de prévention, hygiéno-diététique, le tabac, l'alcool et d'autres, et puis des dépistages. C'est le message important, c'est que la population doit se faire dépister, doit voir son médecin traitant. D'ailleurs, je voudrais dire ici que les médecins traitants reçoivent de la Sécurité sociale tous les ans le listing des patients qui n'ont pas fait les dépistages frottis du col, mammographie, dépistage des marqueurs de la prostate, etc. Donc votre médecin traitant est au courant de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Donc il faut lui en parler pour qu'il vous prescrive les examens. Il y a des dépistages organisés, systématiques, et puis il y a le dépistage, je dirais, individuel. Chacun est comptable de sa propre santé et doit faire, s'il n'a pas reçu d'appel pour faire les examens, doit faire quelques examens dont on va parler. C'est tout simple.
Hein. Il y avait quelques polémiques au niveau du département en disant, justement, les problèmes de prévention du cancer ne passent pas assez pris en compte dans le département des Vosges.
Oui,
est-ce vrai ou pas?
C'est-à-dire qu'il y avait un organisme parapublic qui n'était pas public, qui avait une délégation pour faire fonctionner ce dépistage des cancers. Et cet organisme a un très très lourd déficit, donc était plus ou moins en voie de fermeture, quoi. Mais ça se fait quand même sous l'égide de la Sécurité sociale, sous l'égide de l'ARS, sous l'égide peut-être du département. Enfin, le dépistage du cancer est très, très éparpillé, quoi. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas une centralisation effective de ce genre de prévention et de traitement, quoi, de mise en route. Parce que c'est très important, hein. Alors, quelques chiffres. Je vais encore vous assommer avec des chiffres. Donc, quels sont les facteurs de cancer?
Ah oui.
Quels sont les facteurs de cancer? Bon, je répète toujours le tabac et l'alcool. Hein. C'est les deux principaux facteurs de cancer. 80% des cancers du poumon sont liés au tabac. Hein, et 20% sont des non-fumeurs. Donc, c'est peut-être la pollution atmosphérique ou du tabagisme passif. L'alcool, un verre par jour, augmente votre risque de cancer de 12%. Deux verres de 24%. Deux verres d'alcool d'une dose standard. L'obésité, c'est un facteur de risque de cancer. La sédentarité, donc faites du sport, marchez, bougez. Il y a des virus. Virus de l'hépatite virale donne des cancers du foie. Le virus des papillomavirus donne des cancers du col de l'utérus, mais aussi des cancers ORL, hein, du pharynx, de la langue, de la bouche, etc. Et puis la pollution atmosphérique, et puis un facteur important de cancer aussi, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on a des risques de faire un cancer, parce que le cancer, c'est quand même des cellules qui se multiplient de manière anarchique et qui ne répondent plus à aucune régulation. C'est l'anarchie, quoi. La cellule décide un petit peu de ce qu'elle fait toute seule, par altération de son génome. Et en vieillissant, nous altérons notre génome. Mais on fait des cancers tous les jours, mais il y a des mécanismes de réparation de l'ADN. Donc nous réparons nos cellules qui se mettent à dysfonctionner, et quelquefois cette réparation ne fonctionne pas, ce qui peut donner des cancers qui évoluent, quoi. Et quand un cancer évolue, est visible ou donne des signes, c'est souvent des cancers qui existent depuis 3, 4, 5 ans, 10 ans, à bas bruit, mais beaucoup trop petits, quoi. Un cancer d'un millimètre, ce n'est pas dépistable. Et ça va se manifester que quand la tumeur fera 3, 4, 5 cm. D'où l'intérêt de faire certains dépistages par des recherches de virus.
Ça a pris à temps.
Des prises de sang qui permettent de dépister des choses intéressantes et beaucoup plus précocement. On ne le dira jamais assez, il vaut mieux prendre un cancer d'un demi centimètre de diamètre qu'un cancer de 5 cm de diamètre qui a déjà fait des petits et des métastases partout. Voilà. Pour le pronostic, ça change complètement.
Est-ce que ça peut évoluer vers une guérison spontanée, un cancer ?
Ben, c'est possible. Mais c'est quand même rare, c'est quand même très rare. On parle plutôt d'états précancéreux qui peuvent se guérir. Il y a des états précancéreux liés au papillomavirus. Ces états précancéreux sont classés de type 1, type 2, type 3, au-delà c'est le cancer. Les types 1 régressent très souvent, les types 2 parfois, les types 3 exceptionnellement. Voilà. En fonction de la gravité des lésions précancéreuses, on peut observer une régression spontanée. Mais il ne faut pas trop y compter. Quand on a des lésions précancéreuses, il faut les surveiller comme le lait sur le feu, quoi. Et éviter qu'ils deviennent des cancers et les traiter avant. Alors, quelques chiffres, je vais encore vous assommer avec des chiffres, je vous prie de m'en excuser. On a en 2025 diagnostiqué 433 136 cancers en France, ce qui est considérable. Quand on pense qu'une génération... nos générations, on était à peu près entre 700 et 800 000 naissances par an. Ben, 433 000 par an font un cancer. Donc ça fait à peu près la moitié d'une génération tous les ans. Quoi. C'est considérable. Alors 245 000 hommes et 187 000 femmes. Il y a une prédominance masculine. Alors peut-être parce que les hommes
boivent plus.
Fument plus, boivent plus. Et puis sont peut-être plus exposés professionnellement à des cancers.
Oui, le risque professionnel, c'est
il existe, tout à fait. Il y a beaucoup d'industries où on manipule des produits toxiques. Alors, si vous inhalez un produit toxique une fois accidentellement chez vous en bricolant, c'est peut-être pas ça qui va vous faire un cancer. Mais si vous inhalez, par exemple, un produit toxique tous les jours, c'est l'accumulation de ces...
C'est quoi ces produits toxiques qui peuvent générer un cancer ?
Un des plus courants, c'est l'amiante. Et puis, il y a tous les produits de la chimie, tous les dérivés du pétrole. J'ai une liste assez considérable. On a vu l'alcool, le tabac, l'acétaldéhyde, qui est un dérivé de l'alcool. Les rayons X et les rayons gamma, des gens qui sont exposés à des irradiations. Les boissons très chaudes peuvent donner des cancers de la gorge et de l'œsophage. Des légumes marinés ou fermentés.
Ah bon ?
Qu'on retrouve fréquemment en Chine et au Japon. Les nitrites, les nitrates pour les produits conservateurs.
Les nitrates, en fait.
Les nettoyages à sec. Le trichloréthylène est un cancérigène. L'hélicobacter pylori.
Ce qui me concerne, j'ai été exposé étant jeune. Dans l'usine où je travaillais, à des trichloréthylènes. Est-ce que ça laisse des traces à la langue ?
Ça peut laisser des traces, mais plus le temps passe, plus l'organisme élimine ces produits toxiques. On rejoint les risques, si tu veux, des gens exposés régressent progressivement en fonction avec le temps, quoi. Pour la plupart. L'Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui donne des cancers de l'estomac. C'est bactérien, là, par exemple. L'amiante, on en a parlé. L'essence automobile a des vapeurs qui sont toxiques. Les hexanes dans les huiles, c'est des dérivés du pétrole. Les viandes rouges seraient plus ou moins cancérigènes. Grosse consommation de viande rouge donne des cancers du tube digestif. Des virus, on a parlé des papillomavirus, le virus d'Epstein-Barr. Le travail de nuit, c'est un facteur de cancer.
Femmes.
Pour les femmes, cancer du sein. Il y a des toxines dans certaines graines, l'aflatoxine, l'arsenic, le chlorure de vinyle, le DDT.
Même le chlorure de vinyle ?
Oui.
On trouve partout, un petit peu. Allez.
L'arsenic pour les voies biliaires, les poussières de bois pour
le cancer de l'ethmoïde, c'est ça ?
De l'ethmoïde, des menuisiers. des dérivés du nickel, du chrome, le formaldéhyde également, le benzène.
Dans l'isolation des maisons,
ça, oui.
Il peut s'avérer des substances toxiques.
Oui, il y a des substances naturelles, le radon, dans nos caves, sur des sols granitiques. Les bitumes, les arseniques.
On a vu des interférences entre le radon et puis des opérations de cancer.
Oui, dans des régions granitiques comme la nôtre, il y a certains endroits dans les sous-sols. Il faut aérer les maisons. Voilà, il faut aérer les maisons parce que l'atmosphère des maisons peut être toxique et cancérigène s'il y a trop de radon. Le cadmium, le chrome, le nickel, le cobalt, des produits tout simples. Finalement, les produits de combustion, les suies. Que dire encore ? Les mineurs sont exposés. Les silicones donnent des cancers du poumon. Les mines d'hématite, le toluène, la silice. Ben, la silice, on en a
le
parlé.
Le toluène, oui.
Oui. C'est infini, en fait. Le radium, le platinium. Bon, il y a plein de...
Les fumées, les brés, tout ça.
Oui. Alors, beaucoup de cancers. Première cause de décès chez l'homme. Et deuxième cause de décès chez la femme derrière les accidents cardio-neurovasculaires. Voilà. La fréquence a été multipliée par deux depuis les années 90. Donc une fréquence qui augmente. 90, ça fait 35 ans. En 35 ans, ça a très fortement augmenté. On a à peu près 300. Alors l'étude du Lancet dit qu'il y a 389, 4 nouveau cancer pour 100 000 habitants en France. Et c'est la plus forte fréquence dans l'OCDE. Les cancers les plus fréquents, la prostate chez l'homme d'abord, la prostate 59 800, le poumon 33 000 et colorectal 26 000 chez l'homme. Chez la femme, c'est d'abord le cancer du sein, 61 000. Donc on a deux cancers, prostate et sein, qui sont à peu près à 60 000 chacun chez l'homme et chez la femme. Les colorectaux chez la femme, c'est 21 000. Et le poumon, c'est 19 000. C'est une très forte augmentation du cancer du poumon chez la femme. Parce qu'on a observé un tabagisme qui s'est libéré.
Il y avait 300.
Ouais.
Hein, quand même.
C'est 9%
surtout de tout. Surtout chez les jeunes filles.
Voilà. C'était mal vu de fumer, mais maintenant les femmes fument comme les hommes, voire plus. Donc, elles sont en train de rejoindre les hommes sur le plan du cancer du poumon. Alors, peut-être que cette augmentation est liée à l'existence d'un registre du cancer en France où on répertorie tous les cancers. Alors, c'est peut-être
une meilleure connaissance
des nombres de cancers qui traduit cette augmentation. Je ne sais pas. C'est peut-être artificiel.
Ça se traduit quand même en nombre de décès, quand même.
Oui. Alors, les nombres de décès. Alors, chez la femme, il y a une augmentation de 0,9% des cancers par an, actuellement. Tout cancer confondu. Le cancer de la thyroïde diminue depuis 2014, mais le cancer de la thyroïde, il était fortement dû à Tchernobyl. Parce que la radioactivité ambiante a été multipliée par deux depuis Tchernobyl.
Surtout dans l'Est et le Sud de la France.
Alors, on nous avait raconté que le nuage radioactif était arrivé jusqu'au Rhin et puis il était parti la moitié vers le sud, la moitié vers le haut pour le Luxembourg, la Belgique et puis il était passé en Suisse, en Italie.
Dans les Vosges, on n'a pas été gâté.
Mais il n'était pas passé en France. Non, il y avait un monsieur en blouse blanche qui nous expliquait ça tous les jours pour nous dire
il n'y a
pas de problème. Bon, vaut mieux en rire maintenant.
Il y a eu beaucoup de problèmes de thyroïde.
Oui. Alors,
dans les Vosges, en
particulier. Dans les Vosges, oui. On a opéré beaucoup de thyroïdes pour des cancers débutants dans les Vosges. Cancer de la prostate est de nouveau en augmentation depuis 2015. Je crois que...
On va faire une petite
pause musicale parce que je suis bavard.
Merci, Lou.
Je suis trop bavard. Merci, Lou, de me rappeler à l'ordre.
¿Y este frío cuándo se acaba?
¡Ya! ¡Nueva York!
el perico es blanco. Sí, sí, el tusi racista. No te confundas. No, no, mejor evita. Ey, un chat de cañita en casa de Toñita. Y PR se siente cerquita. Sí, sí, sí. Tengo el campeonato, nadie me lo quita.
De ese nuevo, no me guande, de ese nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
Como va Bonnie, va a ser rey del pop. Ey, con reggaetón y dembow. Ey, con reggaetón. Silenciador le robamos las gotas, J-Bone, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los Yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio.
I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Cubans, Hondurans.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba.
Donc avec ce dossier santé, hein,
oui.
Avec docteur Mijan Tisserand, docteur Jean Tisserand.
Alors, nous parlons des cancers.
Et on parle de, des cancers en général,
en général
de prévention. On, de,
on parlera de un peu de prévention.
Dire, hein.
Oui. Alors,
mais il parlait de, d'un Mars rôle pour les hommes, non? Je ne sais pas, à un moment bah, donné.
Peut-être non. Le cancer de la prostate au mois de mars, je crois. Oui.
Ah
il
oui,
semble qu'il y a quelque chose de plus ou moins de prévu sur le sujet. Oui, je ne suis pas trop au courant, mais on en parlera. Les décès. Alors, les décès.
Oh oui,
alors, il y a de plus en plus de cancers, mais la mortalité par cancer diminue. Ça, c'est un message très positif du fait des progrès médicaux.
Ça diminue pourquoi? Parce que. C'est traité ou bien c'est la prévention, c'est quoi
des, un peu la prévention, mais pas assez, j'en parlerai. Et puis, certainement, des progrès dans la mise en route des traitements, dans les traitements, hein, qui sont programmés, qui sont organisés, qui sont planifiés. Tous les cancers passent en commission de diagnostic pluridisciplinaire, où les traitements les plus adaptés à chaque cas sont discutés, est mise en œuvre. C'est-à-dire que les cancers, maintenant, sont un peu... Quel que soit l'endroit, on a le même traitement. Voilà.
Alors, en milieu hospitalier ou bien ça peut être...
Ça peut être en milieu, en clinique ou en milieu hospitalier. Oui, c'est comme les traitements du cancer sont des traitements...
Ben oui.
Au moins une partie se fait dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Voilà. Les décès, c'est 157 000 décès en 2018.
Hein. C'est la principale cause de mortalité avant même
alors, chez les
problèmes
hommes,
cardiaques.
Chez les hommes, alors que chez les femmes, c'est la deuxième cause de mortalité. Donc chez les hommes, la première cause, c'est les cancers. Et chez les femmes, la première cause de décès, c'est les accidents cardio-neurovasculaires. Les cancers arrivent en deuxième. Ça fait une mortalité donc, chez l'homme de 110 pour 100 000 et pour la femme de 69 pour 100 000. C'est 27% des décès en France. Les maladies cardio-neurovasculaires, c'est 21%. Hein, c'est un petit peu moins, quoi. Les plus dangereux pour l'homme, c'est le poumon. 23 000 décès par cancer du poumon par an. Et chez la femme, c'est le cancer du sein. 12 000 décès par cancer du sein. Hein. Mais bon, on fait des progrès. Hein. Donc, une femme sur six... dans le monde, fait un cancer et un homme sur cinq. La survie à 5 ans elle est bonne pour les cancers colorectaux, elle est de 63%, pour le col de l'utérus, c'est 63%, et le sein et la prostate, les deux, c'est 93%.
Ça laisse des séquelles quand même.
Ça laisse des séquelles fonctionnelles. Les séquelles, c'est souvent des douleurs, souvent des... Et puis, je crois, 5 ans après un traitement de cancer, je crois qu'il n'y a plus que la moitié des gens qui travaillent. Voilà, c'est quand même une exclusion un petit peu sociale. Donc, la survie à 5 ans est bonne. Elle est peu améliorée pour les cancers du pancréas, le cancer du poumon et les tumeurs cérébrales, qui sont des cancers qui restent toujours très sévères. Voilà.
Alors,
Très agressif, oui. Le cancer serait évitable à 41%. Déjà avec le tabac et l'alcool, et le dépistage. Hein. La plus forte augmentation entre 1990 et 2023, c'est le mélanome. Les cancers, c'est des grains de beauté qui se cancérisent. Quoi, voilà. Et le cancer du poumon qui a augmenté de 5%. Les cancers pédiatriques, il y en a 2200 chez l'enfant, de moins de 15 ans, et... La survie à 5 ans est de 80%. C'est souvent des leucémies, des lymphomes ou des tumeurs du système nerveux central, tumeurs du cerveau qui est moins bon, et des cancers du rein. Voilà. Alors il y a 1817 cancers avant 15 ans et 443 entre 15 et 17 ans. Oui, 63% des cancers laissent des séquelles liées au cancer lui-même ou au traitement. On parlera des traitements un petit peu tout à l'heure. Le dépistage. Et non, j'avais dit que 50% ne travaillaient plus, c'est 20% qui ne travaillent plus. J'ai fait une erreur un petit peu magnifique. J'ai un petit peu exagéré. Le dépistage, alors il y a une très mauvaise adhésion en France. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. J'implore la population, au moins vosgienne, de se faire dépister régulièrement pour les cancers où il y a un dépistage national organisé. C'est d'abord le cancer du col de l'utérus. Hein, toutes les femmes doivent faire normalement
un frottis.
Alors, deux frottis à un an, entre 25 et 30 ans au moins, deux frottis à un an d'intervalle, et ensuite un frottis tous les 3 ans. Voilà.
Alors, y compris pour des très jeunes filles.
Oui. Alors, deux possibilités, c'est soit lire sur le frottis les cellules précancéreuses atteintes par le papillomavirus, ça se voit au microscope, ou rechercher le papillomavirus. Mais le papillomavirus, tout le monde va le rencontrer. Donc on ne fait plus trop de recherches de papillomavirus chez les femmes jeunes entre 20 et 30 ans, puisqu'elles sont toutes positives. Donc on inquiéterait les gens à tort.
Ah bon,
voilà. Et après, beaucoup de femmes qui ont eu ce papillomavirus en guérissent, l'ont éliminé. Alors, un obstacle à l'élimination du papillomavirus, c'est le tabac. Les femmes qui fument gardent les papillomavirus, s'en débarrassent moins, et le papillomavirus, il ne vient pas un jour et puis donne un cancer le lendemain, il met 10 ans en moyenne pour cancériser un col. Donc on a tout le temps dans ces 10 ans de pratiquer des frottis, de pratiquer des recherches de papillomavirus qu'on fait plutôt chez les femmes de plus de 30 ans. On a tout le temps de dépister, il ne faut pas paniquer, mais il ne faut pas oublier tous les 2 à 3 ans de faire un frottis du col utérin.
La maternité...
Il y a des consultations à la maternité, oui, les gynécos le font, les sages-femmes le font, même les sages-femmes libérales et les médecins traitants peuvent le faire aussi. Et on s'oriente, peut-être, ce n'est pas encore vraiment passé dans les mœurs, mais par des autodépistages, c'est-à-dire que les femmes prendraient un écouvillon, le mettraient ça dans leur vagin ou sur leur col, et le mettraient dans un tube et l'enverraient au labo, que ce serait très fiable pour dépister le papillomavirus, voilà. Dernière chose, il n'y a pas de cancer du col de l'utérus sans papillomavirus. Tous les cancers du col de l'utérus sont liés à un papillomavirus. Alors, ce qui fait qu'on ne se débarrasse pas du papillomavirus, c'est le tabac, mais aussi les virus HIV. Le virus du sida qui diminue les défenses immunitaires générales, mais aussi celles du col de l'utérus. Donc,
parce que quand même, il y a quand même une protection de l'organisme par rapport...
Oui, oui, l'organisme peut se débarrasser de ce virus et c'est ce qu'il fait parce que la majeure partie de la population va rencontrer un jour ou l'autre le papillomavirus.
Dès la puberté, par exemple, ou même
À partir du moment où il y a des rapports sexuels. C'est-à-dire que ce virus est sur la peau.
Parce qu'on prie beaucoup pour la vaccination des jeunes filles.
Voilà, c'est une autre manière de dépister. Il y a un vaccin conseillé fortement dès l'âge de 11 ans. Alors, en France, chez les jeunes filles, en fait, il faut le faire dans les deux sexes, chez le garçon et chez la fille, très tôt. Jusque 20 ans, on peut le faire jusque 20 ans. Après, ça ne sert plus à rien parce que les gens sont contaminés. Voilà. Et moyennant quoi, on se débarrasse du virus et on empêche le virus. Et alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce papillomavirus, il est responsable de cancer ORL, de cancer de la langue, de la bouche, du larynx, du pharynx.
Ah bon, c'est le...
Oui. Il y a 3000 cancers du col de l'utérus, mais il y a encore 1500 cancers des voies aériennes supérieures chez l'homme et chez la femme. Et un cancer de base de la langue, c'est que ça peut être quelque chose de grave. Hein. Ça peut se manifester par un ganglion cervical qui grossit, et parce que c'est difficile à voir, c'est difficile à observer. Donc vacciner, on peut vacciner les garçons aussi. Je pense qu'en Australie, par exemple, ils ont vacciné garçons et filles. Pour éradiquer, faire disparaître ce virus. Et je pense que cette vaccination porte ses fruits. C'est la première fois que le vaccin n'a aucun effet secondaire. Il n'y a pas de maladie liée à ce vaccin. Il faut être vraiment... Je suis très affirmatif sur le sujet. Il n'y a pas de problème. Et par contre, on pourrait éviter 3000 cancers du col et 1500 cancers ORL supérieur, c'est-à-dire 4500 cancers par an. Qui vont guérir pour deux tiers, mais un tiers va en mourir. Quoi. Donc, c'est une manière de prévenir un cancer. La vaccination prévient ce cancer, ces cancers. Voilà. Elle est faible en France. 37% chez les filles de 16 ans sont vaccinées seulement. C'est pas normal. Je crois que c'est quand on sait qu'une une simple piqûre dans l'épaule, c'est rien du tout. Et quand on voit les traitements lourds de chimiothérapie, radiothérapie, de chirurgie, d'exérèse, surtout pour les cancers ORL, ou perte du goût, perte de la déglutition, troubles de la phonation, c'est des handicaps et tout le monde ne survit pas. Quoi, voilà. Donc, vaccinez-vous, amenez vos jeunes filles, parlez-en, voyez le... Votre médecin traitant est tout à fait apte. Je crois que c'est bénéfique sur le plan de la santé publique et c'est bénéfique également financièrement pour la sécurité sociale. Il faut vacciner pour diminuer des dépenses lourdes de santé plus tard. Voilà. Je crois que c'est... Et des misères énormes.
Monsieur,
et des misères énormes.
Est-ce que ça se prolonge tout au long de la vie ou bien... Ou bien
alors, quelqu'un qui
mette fin à cette contagion.
Alors, cette contagion, elle si existe un peu à tout âge de la vie, mais si on est vacciné, on ne va pas être très réceptif au virus. Hein? Parce que les papillomavirus, il y en a une centaine. Et on se vaccine contre une douzaine de virus qui sont les plus cancérigènes. Pas pour tous. Hein? Tous ne sont pas cancérigènes. Mais... Ce faisant, on se vaccine pour au moins entre 85 et 90% des virus qui peuvent donner des cancers.
Et l'immunité dure combien de temps ?
Eh ben, elle est très longue. Elle est très longue. Hein? Pour l'instant, il n'y a pas de rappel de prévu. Voilà. Autrefois, c'était deux injections. Ou trois injections à un mois d'intervalle, une injection à rappel à un an. Maintenant, je crois que c'est deux injections et la deuxième à trois mois. Voilà. Le cancer du sein. Le dépistage, bah, toutes les femmes entre 50 et 74 ans doivent faire une mammographie tous les deux ans. Voilà.
Est-ce que c'est efficace ou pas ?
Oui.
Parce qu'il dit quelquefois que les mammographies ne démontraient pas grand-chose et qu'elles étaient alarmantes pour pas grand-chose.
Alors, il y a peut-être des surdiagnostics, mais vaut mieux diagnostiquer des cancers tout petits qui... Peut-être qu'ils n'auraient pas évolué, plutôt que de laisser des cancers devenir très gros et évoluer. Un cancer de moins de 10 mm, cancer du sein de moins de 10 mm de diamètre, guérit à 97%. 97%. Donc c'est comme dépister une maladie bénigne, et puis la traiter, puis on n'en parle plus. Voilà, sans séquelles. Hein, souvent, simplement une chirurgie locale, ablation pas du sein, mais juste de la tumeur, ablation de quelques ganglions, voire rechercher s'il y a des ganglions au niveau du creux axillaire. Hein. Et puis, si c'est négatif, ben on en reste là.
Des problèmes de la lymphe aussi, alors ?
Non. Non, parce que ce n'est pas des curages chirurgicaux, c'est un simple diagnostic pour prélever des ganglions. Ce n'est pas un curage lymphatique d'un cancer évolué. Les problèmes de gros bras et de circulation lymphatique sont liés à des curages complets du creux axillaire sur des cancers évolués et importants. Voilà. Où on doit enlever absolument tous les ganglions. Là, ces petits cancers, on fait une injection d'un produit bleu au niveau du sein sur le site du cancer et on regarde s'il y a des ganglions qui sont bleus. Et on enlève les ganglions bleus, c'est-à-dire les ganglions qui sont la première étape de migration des cellules cancéreuses vers le reste de l'organisme. On enlève 2-3 ganglions seulement, les ganglions qui sont colorés. Et dans ces ganglions, je dirais 95 fois sur 100, ils sont négatifs, on ne trouve rien. Puis dans 5%, on trouve quelques cellules cancéreuses. Et on a la satisfaction de les avoir enlevées parce qu'on a enlevé la première marge de progression du cancer. Voilà. Et quand on a trouvé ces ganglions présentant quelques cellules cancéreuses, on fait une chimiothérapie qui détruit les éventuelles cellules cancéreuses qui seraient passées dans la circulation sanguine. Mais plus de 95 à 97% de succès. Est-ce que Lou nous fait un... Ah, oui, voilà. Génial.
Alors, une sélection musicale.
Oui.
Voilà.
Merci Lou.
Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. Et puis la bière les fait chanter. Et quand la fête tourne les têtes, on en voit de se marier. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors.
Voilà, on continue pour le dépistage. Hein. Dépistage du cancer colorectal. Hein, c'est un cancer, un des trois cancers les plus fréquents dans l'espèce humaine. Donc, eh ben, il est organisé.
Plus fréquent chez l'homme que chez la femme.
Je vais te dire ça exactement, les chiffres. Le cancer colorectal, c'est surtout c'est 26 000 hommes par an et 21 000 femmes. Voilà. Donc peu plus fréquent chez l'homme que chez la femme. 26 000 et 21 000 par an. Voilà, les chiffres exacts.
On a vu une progression
Ça reste à peu près stable pour l'instant. Voilà. Ouais, c'est... Alors, c'est tout simple. Il y a un dépistage organisé, conseillé, c'est faire un prélèvement de sel tous les 2 ans. Voilà. Pour Rush, entre 50 et 74 ans, c'est un test immunologique qui recherche la présence de sang en très faible quantité dans les selles. Parce que ces cancers surviennent en général sur des polypes qui saignent. Voilà. Et la présence de sang dans les selles à ce test-là impose de faire une coloscopie. Voilà. Et quand on a une coloscopie, on sort du dépistage organisé, même si la coloscopie est normale ou si on vous enlève quelques polypes. Une nouvelle coloscopie est à refaire 5 ans après. On s'abonne un petit peu, on sort du dépistage, mais on va dans un diagnostic plus directement coloscopie tous les 5 ans. Voilà. Cancer. Alors ça, c'était les 3 cancers à dépistage organisé nationalement. Hein. Le col de l'utérus, papillomavirus, le colorectal et le cancer du sein. D'autres cancers peuvent être dépistés de manière systématique. Il est en train de se mettre en route en France un dépistage pour le cancer du poumon qui consistera à faire des scanners à très faible irradiation après 50 ans chez les gros fumeurs. Et moyennant quoi, on peut diagnostiquer des tout petits cancers sur ces scanners à très faible irradiation. C'est pas la peine de griller les poumons, hein, on fait juste des très faibles doses. Et ça permet de dépister des tout petits cancers qui donnent un excellent pronostic, qui doivent être opérés et qui guérissent bien mieux.
Qui évite des ablations d'un lobe ou autre.
En général, il faut enlever au moins un segment du poumon dans lequel est la lésion, mais pas d'un lobe complet. Quoi.
C'est... Opération lourde et douloureuse.
Oui, douloureuse et assez lourde hein, quand même. Mais c'est bien codifié, bien organisé. L'anatomie du poumon est très bien systématisée. Avec les scanners IRM et autres examens, ça permet de faire des diagnostics en 3D, de savoir à quel endroit exact il est situé et d'enlever le segment pulmonaire qui est touché. Quoi. Sinon, d'autres cancers peuvent être dépistés, ce n'est pas obligatoire. Le cancer de la prostate, eh ben, les hommes doivent faire des marqueurs de PSA. C'est l'antigène spécifique de la prostate, tous les ans. C'est une simple prise de sang. Et il doit avoir un toucher rectal, ce qui est peut-être moins agréable, par leur médecin traitant, pour savoir s'il y a une prostate qui a augmenté de volume, qui est dure et irrégulière. Le mélanome, qui est aussi un dépistage qui n'est pas organisé, ben, il faut surveiller les grains de beauté. Les dermatologues les prennent en photo, gardent les photos et voient s'il y a un grain de beauté. Alors les signes inquiétants pour un grain de beauté, c'est un grain de beauté qui grossit, dont les bords sont flous et irréguliers, dont les couleurs sont différentes. Par endroit, il est très dense et par endroit, il est très clair. Il faut les regarder, les mesurer. Un grain de beauté qui se modifie, qui apparaît et qui se modifie, eh ben, il faut le biopsier. Hein? Et la biopsie dit si c'est grave ou pas grave. Il faut l'enlever complètement. Si c'est pas grave, ben, c'est fini, c'est traité, c'est terminé. Si c'est grave, ben, c'est bien de l'avoir enlevé très tôt, avant qu'il fasse des ganglions, avant qu'il fasse des choses importantes. Quoi. Donc, je répète ici que les médecins traitants reçoivent la liste de leurs patients qui n'ont pas satisfait au dépistage, et ils peuvent vous renseigner, vous dire, vous conseiller, vous dire quels examens on doit faire. Quoi. Sinon, les signes généraux de cancer, il peut ne pas y avoir de choses très visibles. Bah, c'est une douleur nouvelle inexpliquée. Ça n'est pas spécifique à un cancer, mais ça peut, il faut consulter. Quoi. Un essoufflement, une voix enrouée pour des cancers ORL, des brûlures d'estomac qui persistent, digestion difficile, donc des saignements digestifs dans les selles ou dans les urines ou des saignements gynéco. Ça, c'est des signes qui peuvent... Pas que, hein, il n'y a pas que ça, il ne faut pas paniquer. S'il y a un saignement, se dire ça y est, j'ai un cancer. Mais ça peut faire partie des choses possible qu'on en découvre, et ça doit, même si c'est minoritaire, il faut consulter, ne pas négliger un saignement chez une femme ou du sang dans les selles.
Aujourd'hui, avec le nombre de médecins, c'est pas facile.
Voilà, c'est pas facile. Mais
se faire disputer.
Oui, alors on a pour soi quand même dans le dépistage Dépistage, ça veut dire que c'est une recherche de cancer chez des gens qui n'ont pas de signes du tout. Donc ça n'est pas une urgence. Si on vous propose, vous n'avez rien, pas de boule dans les seins, vous ne sentez rien, vous avez 50 ans et on vous propose une mammographie dans 6 mois, c'est pas un problème. C'est pas la peine de la faire la semaine prochaine en urgence. Si c'est dans 6 mois ou dans 8 mois, c'est pas grave. Hein, mais il faut le faire, voilà. Et quand on a fait une mammographie qui est normale, on peut prendre le rendez-vous tout de suite dans 2 ans. Ou un an après, marquer sur son téléphone qu'il faut prendre rendez-vous pour une seconde mammographie. Ce n'est pas une médecine d'urgence. Hein. Ce n'est pas comme si on vous trouve une boule de 3-4 cm dans le sein, où là, dans les 15 jours, il faut que tout soit fait. Mammographie, biopsie, bilan complet. Quoi, hein. Là, on se pose pas dans l'urgence. Hein, et c'est moins stressant, d'ailleurs. Une tuméfaction nouvelle quelque part, une boule qui apparaît quelque part.
Le milieu hospitalier n'a-t-il pas un rôle central dans ces...
Si, tout à fait. Je pense que il y a des consultations hospitalières.
Quand et on puis... voit l'état de nos secteurs, notre structure sanitaire, et... on peut servir du mourant quand même. Pour...
Oui, j'ai entendu une femme, une histoire vraie. Qui voulait prendre un rendez-vous pour une mammographie et on lui a dit, la réponse du cabinet de radiologie, c'est il n'y a plus de rendez-vous de mammographie en 2026.
Oui, bah oui.
Donc c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Quoi. Alors, il y a un problème d'éducation...
Un milieu hospitalier, là.
Dans un cabinet privé de ville, je crois.
Ah bon?
Oui. Alors, je pense qu'il faut frapper à différentes portes. Voilà. Je pense qu'il faut changer de région.
Oui. Pas facile.
Ma fille est radiologue à Paris. Elle fait de la neuroradio. Elle a vu quelqu'un arriver de la région ouest, de Bretagne, pour une tumeur cérébrale, avec des signes. Et ça faisait presque un an que cette personne avait des signes et ne pouvait pas avoir d'IRM cérébrale. Donc c'est un problème d'accès aux soins. Ma fille a fait ce diagnostic et l'a envoyé tout de suite voir un neurochirurgien sur Paris, quoi. Voilà, immédiatement à la sortie du cabinet. Mais c'est dommage que cette patiente ait mis autant de temps.
De structure, de médecin.
Il ne faut pas hésiter à prendre le
tout.
Téléphoner, prendre le train. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà.
Eh ben non.
Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je pense qu'il faut... Si on vous répond que ce n'est pas possible, il ne faut pas dire ben, « je ne fais pas, tant pis, je laisse tomber ». Il faut être têtu, il faut se prendre en charge du point de vue santé. Et si le système de santé est défaillant, il faut frapper à une autre porte. Voilà. Je suis désolé de dire ça, mais c'est pour sa propre vie. Il faut gérer sa propre vie et sa propre santé. Voilà. Autre signe, c'est une fatigue durable, inhabituelle, une perte de poids... Ou une fièvre qui dure, inexpliquée, peut révéler des cancers, quoi. Hein? Donc, le dépistage est un problème d'éducation et de prise en charge personnelle et d'accès. Hein, prise en charge de délai, il ne faut pas renoncer, et d'accès au traitement, après. Alors, il y a quand même des facteurs positifs. On parle de l'intelligence artificielle. Ben, ça a apporté quand même des choses pour l'automatisation des... De radio. On prévoit d'interpréter des radios, des mammographies par intelligence artificielle qui seront contrôlées par une vision humaine, alors qu'il y a une double lecture actuellement. Il y a deux lecteurs humains qui regardent la même mammographie. Là, il y aura peut-être une lecture par intelligence artificielle qui sera contrôlée par un radiologue, par un homme. On améliorera les performances en prédisant les récidives. Avec intelligence artificielle. Hein. On va pouvoir analyser et prendre des aides à la décision, mais ce n'est pas encore opérationnel. Mais en stockant un nombre très important de cancers, on va pouvoir, et de leur évolution, on va pouvoir savoir quels sont les cancers qu'il faut traiter de manière agressive et ceux sur lesquels il faut être moins agressif. Identifier de nouvelles cibles de diagnostic, des nouvelles cibles de suivi et des nouvelles cibles de traitement. L'intelligence artificielle permet de découvrir de nouveaux médicaments. Par analyse des molécules, l'intelligence artificielle à des applications en santé.
Ça permet des raccourcis.
Des raccourcis. Hein,
des copies, bon, par exemple.
Et
de diagnostic.
Et de supposer, par exemple, par la structure d'une molécule, qu'elle pourrait avoir une action thérapeutique dans tel type de cancer. Alors, il y a des gros progrès qui sont faits en matière de traitement. C'est les thérapies cellulaires. Surtout faites pour les tumeurs, les leucémies, les lymphomes. Hein. C'est ce qu'on appelle les CAR-T-cell. On prélève chez le patient des cellules cancéreuses. On prélève des lymphocytes qui sont normaux et on va sensibiliser ces lymphocytes aux antigènes de la tumeur. Ce qui fait que ces lymphocytes vont apprendre à détruire les cellules tumorales. C'est-à-dire que le malade va faire lui-même son propre traitement avec ces cellules. C'est extrêmement séduisant. Ça marche très bien pour les leucémies, les lymphomes, ces tumeurs liquides, si tu veux. Mais c'est en train d'être mis en route pour des tumeurs solides. Mais c'est très coûteux parce que c'est des traitements adaptés à chaque type de tumeur. Quand on dit cancer du poumon, tout le monde n'a pas le même cancer du poumon. Donc il faut prélever des cellules de ton cancer, du patient en question, pour immuniser ses propres lymphocytes. Et donc ça permet de réduire, de faire ce qu'on appelle une désescalade thérapeutique, parce que les chimiothérapies conventionnelles étaient basées sur la destruction des cellules qui se multiplient rapidement. Alors les cellules qui se multiplient rapidement sont les cellules cancéreuses, hein, c'est des antimitotiques, comme elles se multiplient, elles font des mitoses, elles se multiplient, et c'est des poisons de la mitose. Donc on détruit les cellules qui essaient de se reproduire, donc dans les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules de la muqueuse digestive, aussi les cellules de la moelle osseuse, d'où les anémies, les pertes de plaquettes, les pertes de globules blancs induites par les chimiothérapies. Donc ces traitements vont pouvoir faire une désescalade thérapeutique. En dehors de ces cellules, il y a des immunothérapies moins compliquées, qui se font d'emblée. C'est des médicaments qui stimulent l'immunité des patients. Lou nous rappelle que bientôt, nous allons faire une troisième pause musicale. Heureusement qu'elle est là, hein, parce que je parlerai des heures. Merci, Lou.
Swing, you should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in a wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody, let it rock.
Eh bien voilà.
On continue.
Après cette musique,
Elvis Presley.
Oui, ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas?
Années 60. Elvis. Années voilà. 60, années 60.
Et puis nous reprenons l'émission, oui. La parole est à vous. Alors, le magazine Santé avec Jean.
On parlait de ces carcétécelles, c'est-à-dire on immunise les lymphocytes du patient in vitro en laboratoire, et puis on lui réadministre ces lymphocytes qui sont immunisés contre ses propres cellules cancéreuses. Donc c'est un progrès manifeste. Et il y a des recherches actuelles qui consisteraient à immuniser les cellules en le faisant directement par injection sanguine chez le patient, sans prélever ses lymphocytes, de faire des manipulations extérieures pour lui réinjecter, mais on pourrait le faire in vivo, comme on dit.
Passe par le sang.
Par une simple administration d'antigènes tumoraux pour sensibiliser directement ses lymphocytes, sans passer par des éprouvettes en laboratoire. C'est à l'étude, c'est en train de se faire, ça commence à marcher. Alors, c'est ce qu'on appelle la personnalisation du traitement. On a parlé de désescalade thérapeutique. On envisage aussi, comme méthode de traitement, des vaccins curatifs. Tout à l'heure, on a parlé des vaccins préventifs contre le papillomavirus, contre l'hépatite B, qui donne des cancers du foie, des cancers du col, etc. Il existe déjà des cancers à base de protéines de cellules tumorales. Et on donne beaucoup d'espoir dans les vaccins ARN messagers pour vacciner des cancers en cours d'évolution. Voilà, ça, c'est une voie d'avenir. Alors, je voudrais dire que donc, c'est très encourageant. On fait de gros progrès en matière de cancer. Et on parle que d'ici 15 à 20 ans, peut-être, on aura plus de 80% de guérison de tous les cancers. Et que ce sera une maladie chronique. Non mortel peut-être, hein, ou très rarement mortel, quoi. Il y a des gros progrès qui sont faits. Alors je voudrais aussi insister sur le fait que toutes les découvertes en matière de traitement des cancers, de diagnostic des cancers, sont basées sur des recherches fondamentales, des recherches scientifiques fondamentales. Et actuellement, la science fait l'objet d'attaques inconsidérées des politiques populistes et anti-vax, anti-recherche scientifique, etc. Mais je crois que tous les progrès passent par des découvertes scientifiques.
J'ai mis un index, ça coûte cher.
Voilà, des recherches scientifiques fondamentales, pas des recherches appliquées directement pour faire du business, mais parfois par des recherches fondamentales qui semblent a priori ne pas avoir de rapport avec le cancer, où on s'aperçoit que finalement, ça a des conséquences énormes, positives sur les traitements, quoi. Hein? Donc, ne pas négliger la recherche scientifique fondamentale qui est combattue actuellement puisque non rentable, puisque tout doit être business. Voilà. Les grandes découvertes scientifiques découlent de découvertes scientifiques dont les applications se révèlent fabuleuses après. Hein? Mais elles n'avaient pas été pensées au départ pour une application directe, concrète. Il faut ne pas négliger la recherche fondamentale. Alors, la recherche fondamentale, la recherche pour le cancer en France, la recherche publique, c'est 27 millions d'euros par an. Ce n'est pas beaucoup.
Non.
C'est 2% des dépenses d'assurance maladie. C'est très peu. C'est très, très peu. Et je crois que ce n'est pas assez. Les progrès viendront de découvertes scientifiques, comme on en fait actuellement, hein, les cartes-tesselles, les gens qui ont découvert ça ont eu des prix Nobel. Hein, c'est magnifique. Ouais. Et 40% des fonds de la recherche française sont liés aux dons.
Oui.
Aux grands instituts de recherche, de dépistage et de prévention du cancer. Que je ne citerai pas, mais vous les connaissez tous comme moi. Et je crois que
bien sûr.
Hein, il y a beaucoup de dons qui se font dans des familles qui sont atteintes par des cancers. Oui, j'ai pas parlé des dépistages des cancers familiaux. Hein, ça fait partie des risques. Il y a des gènes de cancers familiaux qui posent des problèmes éthiques parce que Il faut qu'il y ait un ou deux cas dans la famille ou trois cas dans la famille et on recherche ces gènes. Par exemple, pour le cancer du sein, c'est les gènes BRCA1, BRCA2, breast cancer antigène 1, breast cancer antigène 2. Et est-ce que l'autre partie de la famille, chez des gens plus jeunes, alors qu'ils ne sont pas du tout touchés ni malades, doivent faire ce dépistage? Ben, c'est leur totale liberté de le faire ou de ne pas le faire. Le faire, c'est avoir un dépistage organisé peut-être plus tôt que 50 ans, peut-être à 30, 35 ans, 40 ans, régulièrement, et pouvoir diagnostiquer des cancers beaucoup plus tôt, mais ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des cancers, ces cancers-là sont quelquefois très invasifs, très évolutifs, très rapides. Le dépistage marche très bien dans les cancers dont l'évolution est lente. Mais dans les cancers d'évolution massive, très rapide, on n'a pas le temps. Un cancer, un dépistage peut être négatif et 2 ans après, la patiente présentait des tumeurs hors de tout dépistage, beaucoup trop grosses, quoi. Donc, il faudrait faire des dépistages tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Donc, ce dépistage ne résout pas tout, mais ça résout statistiquement un problème important de cancérogenèse dans la population. Si on fait diminuer 90% des cancers par le dépistage, ben ce serait bien, quoi. C'est toujours ça, quoi. Alors, on a besoin de talents, on a besoin de chercheurs universitaires, de chercheurs dans des laboratoires de sciences fondamentales et d'ingénieurs pour des applications pour rechercher le cancer. Voilà. J'implore la population vosgienne et locale à satisfaire cette nécessité de dépistage. Oui. Un frottis, une mammographie, une prise de sang, c'est rien. Hein. Voir son médecin et aller au-delà des 3 dépistages systématiques en dépistant la prostate et le cancer du poumon. Et puis, surveiller ses grains de beauté. Merci à tous.
Voilà. Merci pour ces... Merci,
mais,
Jean.
Mais il y a un message positif pour l'avenir parce qu'on fait d'énormes progrès en matière de traitement. Merci, Michel. Oui. Merci à tous nos auditeurs d'avoir eu la patience
de
nous écouter.
De savoir...
Merci à Lou. Merci à Lou pour la technique.
Voilà.
Qui rappelle à l'ordre...
Merci à Lou.
Qui rappelle à l'ordre ces vieux bavards qui ne peuvent pas s'arrêter de parler. Merci, Lou.
Rendez-vous
dans un mois.
La semaine prochaine. Ouais. Pour une émission de La parole est à vous. Voilà.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Thank you.